Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Et nous irons à Jérusalem dans une minute après l'attaque iranienne de ce week-end. Témoignages d'habitants à suivre.
En pleine campagne présidentielle, Donald Trump doit comparaître devant la justice new-yorkaise. Un procès pénal historique, nous dira notre correspondant à Washington.
Que peut le Parlement européen ? À 2 mois des élections, on fait le point sur les compétences de l'institution, l'un des plus grands parlements au monde.
Et les têtes de liste PS et LR aux européennes s'opposaient hier soir sur BFM TV. Peut-on raviver le clivage gauche-droite ? Stéphane Robert s'y intéresse dans son billet politique à 8h15.
L'Iran dit à l'ONU n'avoir pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense pour expliquer son attaque contre Israël entre samedi et dimanche. Une image restera sûrement de cette nuit où des centaines de drones et de missiles ont été envoyés sur le territoire israélien. Celle des explosions au-dessus du dôme, du rocher et de l'esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs, le symbole de la vieille ville de Jérusalem. Une vidéo relayée par l'ayatollah Ali Khamenei sur le réseau X avec ce message en hébreu, Jérusalem sera bientôt entre les mains des musulmans. Jérusalem où juifs, arabes, arméniens, musulmans et chrétiens ont vu cette scène de leurs yeux. Le reportage de Thibault Lefebvre.
Georges habite une maison de 4 étages. Sur la Via Dolorosa, c'est à la première étape du chemin de croix du Christ.
J'étais sur mon toit et j'ai tout vu juste à côté. C'était très près.
Il est chrétien, arabe et défend sans ambiguïté l'attaque iranienne. Une parole rare dans un lieu quadrillé par les forces de sécurité israéliennes.
Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Avec cette réponse, les Israéliens vont maintenant y réfléchir à 2 fois avant de frapper de nouveau. C'est la différence entre les deux nations. L'une va sur les toits et l'autre sous la terre. De quoi j'ai peur ? Tuez-moi, envoyez-moi en prison, j'y suis déjà allé. Tuez mes enfants, allez-y, faites-le, vous l'avez déjà fait. De toute façon, vous êtes des tueurs, on n'en a rien à faire.
Plus à l'ouest, le mur des lamentations. Et ces dizaines de juifs, pour la plupart orthodoxes, venus prier après une nuit de terreur.
Il y a 3000 ans, on était déjà là et on sera là pour toujours.
Netanel est américain, installé en Israël depuis une quinzaine d'années.
Merci à Dieu, nous avons le dôme de fer. Je ne pense pas que ce soit la réponse à tout. Nous devons régler ça à la racine et ne pas seulement se reposer sur la défense antiaérienne. Dieu a promis de prendre soin de nous et c'est ce qu'il fera.
Et pour Netanel, le temps est désormais à la riposte israélienne pour définitivement en terminer, dit-il, avec la menace iranienne.
Le Moyen-Orient est au bord du précipice, a prévenu hier Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, au début d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Beaucoup craignent une escalade dans la région, 6 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. À New York, Loïc Loury.
Une réponse nécessaire et proportionnée, c'est ainsi que le représentant iranien qualifie l'attaque de son pays contre Israël. Un droit à l'autodéfense, affirme Téhéran suite au bombardement de son consulat à Damas le 1er avril. En face, Israël réclame toutes les sanctions possibles contre l'Iran comparé au régime nazi, soutenu entre autres par le grand allié américain. Dans les prochains jours, Washington examinera des mesures additionnelles pour que l'Iran soit tenu responsable. Le Conseil doit condamner sans équivoque les actions agressives de l'Iran et appeler Téhéran et ses partenaires à cesser leurs attaques. Mais autour de la table, il n'était pas uniquement question de l'Iran. La Suisse ou Malte condamnent l'attaque israélienne déplorable contre le consulat iranien en Syrie. D'autres réclamant à nouveau un cessez-le-feu à Gaza. La plupart des diplomates appelant à éviter toute escalade avant une éventuelle riposte israélienne. L'heure est à la retenue maximum, dit le secrétaire général de l'ONU, pour s'éloigner du précipice.
La France a participé à des actions d'interception pendant l'attaque iranienne, a confirmé le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, qui dit que l'ambassadeur d'Iran à Paris sera convoqué aujourd'hui. De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande un renforcement de la sécurité en France devant les lieux de culte juifs ainsi que devant les écoles confessionnelles. Pour ne pas oublier une autre crise, la guerre au Soudan qui dure depuis un an, une conférence internationale s'ouvre s'ouvre aujourd'hui à Paris. La lutte pour le pouvoir entre les deux généraux qui dirigeaient ce pays d'Afrique de l'Est a plongé la nation dans le chaos. Un an plus tard, toutes les tentatives de médiation ont échoué. Le conflit a fait des milliers de morts et plus de 8 millions de déplacés, l'une des pires crises humanitaires au monde, selon les Nations Unies. Si la communauté internationale est préoccupée par d'autres conflits, dans la région du Darfour, dans le sud-ouest du pays, se déroule, selon des experts, un nettoyage ethnique, un génocide selon les victimes. L'accès à la zone est impossible aux journalistes et aux enquêteurs, mais des survivants tentent de collecter des preuves dans les camps de réfugiés du Tchad, là où s'est rendu notre envoyé spécial Carole Valade.
Au Soudan, Abdelmonem Djouzour exerçait comme avocat. Réfugié au Tchad, il continue de collecter preuves et témoignages.
Dans le cabinet où je travaillais, nous étions trois. Mes deux associés ont été assassinés. Si je continue le travail aujourd'hui, c'est aussi en leur mémoire pour qu'ils ne soient pas morts en vain.
Armé de son calepin, il note chaque détail du récit de cet homme.
Il y avait tellement de cadavres partout dans les rues, alors je me suis porté volontaire pour les enterrer. On partait remplir les fosses communes et j'ai enterré jusqu'à 150 personnes en une seule nuit.
L'ONU a déjà confirmé l'existence d'au moins 13 de ces fosses communes. Sans ordinateur ni électricité, les données sont recopiées à la main. Maître Ahmad Ramis dénombre 18 000 morts et 7 000 disparus, rien que pour le Darfour Ouest.
Il faut conserver ces données pour les mettre à la disposition de la justice internationale. Si toutes les informations sont déjà prêtes, les procédures seront plus rapides. Mais il faut faire le travail en amont, avant que les gens oublient ou que les preuves disparaissent.
Les noms des avocats circulent sur des listes de personnes à éliminer, comme l'atteste un rapport des Nations Unies. Abdelmonem le sait bien, si l'on me tue, conclut-il froidement, d'autres avocats poursuivront le travail.
Le reportage de Carole Valade. Pour la première fois, un ancien président des États-Unis fait face à la justice pénale de son pays. Donald Trump a tout fait pour l'annuler ou le repousser, mais il a rendez-vous dans un tribunal new-yorkais aujourd'hui. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Correspondant à Washington, ses ennuis judiciaires sont nombreux, mais ce procès pourrait être le seul à se tenir avant l'élection de novembre. Et c'est aussi le moins dangereux pour le républicain candidat à un nouveau mandat.
Oui, c'est celui dans lequel Trump a clairement le moins à perdre, même s'il avoue en privé qu'il n'a pas envie d'une condamnation avant le scrutin du 5 novembre. Pour ce procès, on remonte à une autre élection, celle de 2016. C'est la première fois à l'époque que Trump tente de décrocher la Maison-Blanche. Il est face à Hillary Clinton. C'est la fin de la campagne et trois personnes menacent de révéler la relation que le milliardaire aurait eue 10 ans plus tôt avec une actrice porno, Stormy Daniels. Il nie les faits, mais il décide d'acheter le silence de cette femme. Il lui fait verser $130 000 par son avocat de l'époque, Michael Cohen. Ce n'est pas ça qui lui est reproché aujourd'hui, c'est d'avoir tenté de dissimuler ses versements d'argent en les classant comme frais juridiques dans les documents de sa société. Les chèques sont remis à Stormy Daniels par Michael Cohen. Depuis, les deux hommes sont brouillés. Trump l'a remboursé une fois qu'il était à la Maison-Blanche. Pour le procureur, il y a là versement illégal à une campagne électorale et fraude fiscale. 34 chefs d'accusation au total, passibles chacun de 4 ans de prison.
Alors, comment va se dérouler le procès, Sébastien ?
Alors, ça commence aujourd'hui avec la sélection des jurés. 12 hommes et femmes qui habitent le district de New York. C'est la ville de naissance de Trump, là où il a ses affaires, mais dont il sait qu'elle penche plutôt côté démocrate. Les jurés et leurs suppléants doivent être totalement neutres. Ils ont répondu à 7 pages de questions, notamment pour savoir s'ils avaient déjà assisté à un meeting du milliardaire ou s'ils suivaient des comptes anti-Trump sur les réseaux sociaux. Côté témoins, on écoutera notamment Stormy Daniels en premier lieu, Michael Cohen aussi évidemment, et Trump lui-même pourrait aller à la barre. Le procès doit durer 1 mois et demi. Le verdict du jury devra être livré à l'unanimité.
Les précisions à Washington de Sébastien Paour.
8h09, la suite du journal. Margot Delpierre, à 2 mois des européennes, les candidats accélèrent leur campagne. Les débats s'enchaînent, on y reviendra d'ailleurs dans le billet politique tout à l'heure, à l'occasion aussi de faire le point sur les pouvoirs du Parlement européen.
C'est un scrutin à un tour, à la proportionnelle, pour élire les 720 députés européens. Ils étaient 705 lors de la précédente mandature, nombre augmenté en raison de la démographie. Pour la France, deuxième pays de l'Union européenne, comptant le plus de députés derrière l'Allemagne. On passe de 79 à 81 parlementaires qui seront élus. Ce sera le 9 juin prochain. Des eurodéputés, avec quelles compétences? Les précisions de Sophie Delpont.
Avec bientôt 720 députés, c'est l'un des plus grands parlements au monde, avec trois compétences majeures, législative, budgétaire et de contrôle du pouvoir exécutif. Les députés européens votent les directives et les règlements proposés par la Commission européenne. S'il est adopté par le Parlement, le texte est alors transmis au Conseil de l'Union européenne, qui est composé des ministres de chaque État membre. Le Conseil peut ensuite modifier le texte et le renvoyer devant le Parlement. Les députés européens votent aussi les dépenses liées au budget européen, comme par exemple la PAC, la politique agricole commune, ou bien le plan de relance européen de 750 milliards d'euros pour faire face aux conséquences de la pandémie. Contrairement aux parlementaires français, ils ne peuvent pas proposer eux-mêmes un texte. C'est une prérogative de la Commission. En revanche, ils exercent davantage de contrôle direct sur l'exécutif en élisant le ou la présidente de la Commission européenne et dont ils valident ou non chacun des membres. C'est ainsi que la candidature de Sylvie Goulard, proposée par la France en 2019, avait été rejetée en raison de l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Les députés européens peuvent ouvrir des missions d'enquête. Ils ont aussi le pouvoir de censurer la Commission européenne. C'est en menaçant de déposer une motion de censure pour une affaire d'emploi fictif présumé que le Parlement avait obtenu en 1999 la démission de l'ensemble de la Commission européenne, présidée à l'époque par Jacques Santer.
Deux ans de tergiversation au gouvernement, de recours devant la justice, mais le contrôle technique pour les deux roues devient obligatoire à partir d'aujourd'hui. Contrôle contesté par la Fédération des motards en colère qui a manifesté un peu partout en France ce week-end. Elle le juge inutile, les accidents provoqués par des problèmes mécaniques de deux roues étant marginaux selon elle. Et puis il y a les centres de contrôle technique qui doivent s'adapter tant bien que mal à cette nouvelle activité, Thomas Pinaroli.
Vous me le mettez par texto, je vous cache pas parce que j'ai plein d'appels en même temps.
Les coups de fil s'enchaînent dans ce centre de contrôle de Clamart.
Merci beaucoup, au revoir.
La question du moment, comment faire contrôler son deux roues? Car l'établissement de Raal en Barrec fait partie des quelques centres déjà agréés en région parisienne.
Au niveau des techniciens, donc des contrôleurs, il y avait donc 4 jours de formation, acquisition de matériel supplémentaire, on a eu des achats en plus bien sûr.
Pont élévateur et support spécifique, clés et béquilles adaptées, ces nouveaux outils ont coûté plusieurs milliers d'euros, un coût incompressible, explique le gérant du centre.
Le problème des motos, c'est que toute moto est différente. Et aujourd'hui, il y a certains points où les accès sont plus difficiles que sur d'autres. Par exemple, vous prenez une Goldwyn ou vous prenez un Spirit, ça ne sera pas du tout la même chose.
Peu de centres ont voulu se faire agréer et ça risque de poser problème dans certaines zones, à la campagne notamment. C'est ce que dénonce Thibaut Schmitt, élu au bureau de la Fédération des motards en colère.
Il n'y aura pas forcément une très grosse densité de centres de contrôle technique. Donc nous, ce qui nous inquiète dans ce cadre-là, c'est l'adolescent de 14, 15, 16 ans qui va peut-être devoir faire 50 km si ça se trouve, pour aller faire contrôler son deux roues, alors qu'il l'utilise dans un trajet quotidien qui n'excède peut-être pas à 10 km pour se rendre au collège ou au lycée.
Et puis la question des tarifs reste encore en suspens. La plupart des centres ne les communiquent pas. Trop de flou pour la Fédération des motards. Elle appelle ses adhérents à ne pas faire contrôler leurs deux roues, même si un défaut de contrôle technique est puni de 750 euros d'amende et d'une immobilisation du véhicule.
Les propriétaires de deux ou trois roues ont au moins jusqu'à la fin de l'année pour passer leur premier contrôle technique à répéter ensuite tous les trois ans. 5 ans exactement après l'incendie de Notre-Dame de Paris, où en est-on du chantier? La réouverture est prévue en décembre. Après le retour de la flèche en février dernier, ce sont désormais les trois pignons, les murs extérieurs de la cathédrale qui ont été restaurés. Les derniers artisans s'activent, la mission d'une vie pour certains, Jeanne Serrin.
C'était son dernier jour sur le chantier et Nicolas Clerget, sculpteur à Véronnet, l'a vécu avec émotion. Il vient d'assister à la pose du Saint-Martin, une statue sur laquelle il travaille depuis 3 mois.
Tant qu'elle n'était pas posée sur son socle, oulala, j'avais peur. J'avais mal au ventre, c'est une restauration, on remet à l'identique. Il y avait la crosse à restituer, il y avait le visage à resurligner. On est vraiment dans le monde de Viollet-le-Duc. C'est du figuratif, c'est quelque chose de très précis, de très pointu. J'ai eu beaucoup de chance, de pouvoir la faire. C'est quand même quelque chose d'assez assez majeur.
Alors à quelques minutes de monter dans le train de nuit pour Rodez, c'est les yeux embués qu'il quitte les lieux 18 mois après être arrivé.
Quand je voyais sur les chaînes d'infos la flèche qui s'écroulait, on est à des années-lumière de savoir qu'on va venir travailler là, quoi. Pour moi, j'ai franchi une grosse étape. On fait partie de l'équipe. Maintenant, oui, je vais retourner sur la cathédrale de Rodez, qui est beaucoup plus calme. Là, je vais être triste. Même de toute façon, quand je taillais déjà le Saint-Martin avec ma râpe, je commençais à me dire, bon ben voilà, c'est la dernière pièce. Ça va se terminer, l'aventure va se terminer. On a la conscience du devoir accompli. Mon petit-fils dira, papy, il a taillé la statue là, mais c'est tout. De toute façon, c'est un métier modeste, hein, puisqu'on n'est pas des artistes, donc on signe pas, on n'est pas là pour ça.
Ce sont maintenant d'autres ouvriers qui vont prendre le relais pour la dernière ligne droite, détaille Philippe Jost, le président de l'établissement public chargé de la restauration.
C'est d'une part la couverture de la nef et du chœur, et puis des bras du transept. Et puis après l'été à l'automne, nous aurons des finitions intérieures, dont l'installation du mobilier liturgique. On ne chômera pas, chaque jour compte, donc il s'agit de se battre chaque jour pour être au rendez-vous début décembre.
Un dernier chantier, celui du réaménagement du parvis de la cathédrale, sera lui aussi engagé dans les prochains mois pour que les accès soient dégagés à l'automne.
Jeanne Serrin, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme sont en vigilance orange vent violent à partir de ce midi et jusqu'à ce soir. Météo France prévoit sinon un temps instable. Le retour de la pluie sur une bonne partie du pays. 9 degrés maximum à Lille cet après-midi jusqu'à 27 à Montélimar.